France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Je crois que ce pays est en train, probablement aujourd'hui, de dériver vers une bombe, un long tunnel noir dont personne ne voit la sortie. C'est le chercheur Joseph Baout qui nous disait cela depuis Beyrouth sur France Culture le 9 juillet. De quoi rappeler dans quelle situation était déjà le Liban avant la catastrophe de mardi soir. Des frigos vides, des coupures d'électricité, une inflation galopante, la moitié des habitants sous le seuil de pauvreté, crise économique, sociale, politique, toutes imbriquées. Et voilà donc ces deux explosions dont le bilan reste incertain. Au moins 113 morts, des milliers de blessés, un nombre indéterminé de disparus, 300 000 personnes sans domicile. En cause, selon les autorités, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis 6 ans et sans précaution dans un entrepôt du port de Beyrouth. On disait le Liban au bord du gouffre. Qu'en dire aujourd'hui? Si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué, cette citation-là. Et de vous, Henri Laurence, bonjour.
Bonjour.
Merci, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du Moyen-Orient. Vous avez été directeur du Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain, devenu IFPO à Beyrouth. C'était au début des années 2000. Vous vous êtes rendu au Liban pour la première fois en 1977. On va donc essayer de comprendre tout de même un peu grâce à vous ce matin. D'abord, je voudrais vous entendre sur ces mots que l'on entend, on lit partout depuis mardi dans la bouche des habitants de Beyrouth, Henri Laurence. C'est pire que la guerre.
Disons que c'est le choc qui est plus dur que la guerre, puisque quand même Beyrouth a connu des mois ou des semaines de bombardements, etc. Mais là, le choc a été brutal et une grande partie de l'agglomération a été touchée d'un seul coup, ce qui ne s'était pas produit durant la guerre.
Cet hiver, vous disiez, Henri Laurence, ce qui est mis en cause au Liban, c'est l'impuissance de l'État. C'est cela que révèle de manière tragique aujourd'hui cette catastrophe, l'incurie du système, d'un système corrompu. Et qu'est-ce que l'on entend à Beyrouth par système?
C'est l'ensemble d'une classe politique qui, d'un côté, se débat sur des orientations géostratégiques, alliance avec tel ou tel camp, etc. Et de l'autre côté, une espèce de collaboration collective dans le prélèvement des ressources du pays.
Et vous nous disiez, pour préparer cette émission, voilà l'incurie d'un système politique enraciné depuis plusieurs décennies. Où trouve-t-il son origine, ce système dont on parle tant?
Ce système, il remonte à très loin. C'est ce qu'on appelle le confessionnalisme politique. Il apparaît dès la fin du 19e siècle, à l'époque ottomane, et se développe jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'on a ici, c'est comme dans d'autres pays de la région, une sorte de kleptocratie plutôt qu'un véritable système politique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que les partis politiques, les forces politiques s'appuient à la fois sur la situation communautaire, ils se construisent leur base politique sur la communauté, et d'autre part sur le prélèvement des ressources du pays en pratiquant un clientélisme d'autant plus débridé en quelque sorte qu'il se justifie à chaque fois par la défense de sa communauté par rapport aux autres, c'est-à-dire si vous avez mis un fonctionnaire de troisième classe ou deuxième classe à tel endroit qui appartient à telle communauté, moi j'exige que ma communauté ait la parité avec la vôtre dans ces fonctions-là.
Et c'est cela que...
Ça va du pratiquement du planton jusqu'au directeur de service dans un ministère.
Et c'est en cela, c'est parce que justement ça va du plancton au directeur de service dans un ministère que ce système rejeté résiste, en tout cas a résisté jusque-là.
Absolument, parce que de toute façon, les forces politiques, elles ont un appui réel dans la société. D'un côté, vous avez un appui réel parce qu'ils ont des clientélistes, donc ils offrent des emplois, et de toute façon on ne peut pas avoir un rapport avec la fonction publique sans passer par ce clientélisme. Et puis de l'autre côté, bon, les partis politiques, je dirais, caricaturant un peu, c'est comme club de football, c'est-à-dire que vous avez des militants qui s'identifient étroitement à ce parti, à sa direction, etc. Comme pour des partisans d'un club de football.
Vous pensez justement que ce système-là est quelque part à bout. Il est rejeté depuis longtemps déjà, pas seulement depuis le mois d'octobre, mais là pour beaucoup, on le lit, on l'entend depuis 2 jours. C'est la catastrophe de trop. Alors est-ce que c'est la catastrophe de trop d'abord, sans doute pour la population, mais est-ce que ça peut l'être aussi justement pour ce système?
Ce sera toujours la grande interrogation, c'est-à-dire quand on reviendra devant les urnes, est-ce que les partis politiques réussiront à se faire réélire ou est-ce que des forces alternatives pourront en quelque sorte surfer sur ce rejet actuel de la classe politique?
Ce rejet actuel et ce rejet ancien aussi, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ici au mois d'octobre de ces grandes manifestations à Beyrouth, mais déjà avant cela, ce système était rejeté, en tout cas par une partie de la population.
Oui, mais on a en même temps vu apparaître déjà des heurts assez brutaux entre les militants des partis et les manifestants, et la police et l'armée s'est plutôt interposée. Je veux dire, les partis politiques ont des militants qui peuvent être éventuellement armés.
Et on sait, Henri Laurence, on le lit encore, qu'il a été si souvent question de la résilience libanaise. Ces derniers mois déjà, certains disaient « ça suffit, il faut arrêter avec ça, ça n'est pas la population qui est résiliente, c'est la classe dirigeante ». Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut encore continuer à parler de cette résilience libanaise? Et d'où vient-il ce mythe ou cette réalité, je ne sais pas, de la résilience?
Bon, il y avait une image un peu d'Épinal, si vous voulez, durant la guerre, où il y avait des bombardements dans un secteur et les gens allaient jouer au tennis à 5 ou 10 kilomètres. Il y a eu, durant la guerre, série d'accommodements avec la réalité qui ont permis aux gens de vivre. Mais bon, beaucoup de Libanais se sont exilés durant cette période et la consommation de neuroleptiques est très très élevée dans ce pays, donc cette résilience doit être quand même mise un peu, enfin, considérée comme limitée. Mais là, les gens sont totalement épuisés. C'est leurs espoirs de vie, leur identification sociale qui est en cause. Je veux dire, les gens au Liban saignent pour élever leurs enfants dans les meilleures écoles possibles. Et il y a vraiment un dévouement extraordinaire des familles pour l'éducation. Elles se réveillent brutalement avec plus les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école ou dans les écoles où elles veulent que les enfants aillent.
Avant même cette catastrophe, Henri Laurence, il y avait cette crise économique que l'on dit la pire pour le Liban depuis des décennies, la population qui tombe dans la pauvreté, y compris la classe moyenne. Je disais en introduction crise imbriquée, mais la racine, c'est quoi concernant cette crise économique? Comment elle s'explique et pourquoi s'est-elle tout de même à ce point accélérée ces derniers mois?
Bon, il y a une dizaine d'années, j'avais organisé un colloque sur le Liban et un économiste avait dit c'est un système de Ponzi. Aujourd'hui, on dirait à la Madoff. C'est-à-dire, donc, il y a toute une pyramide financière et on offrait au Liban des taux d'intérêt exorbitants par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Si vous aviez un compte en dollars au Liban, vous pouviez obtenir des 7-8% alors que ailleurs dans le monde, c'était 1%. Donc, ça montre bien que ça n'était pas tenable à long terme. Et brutalement, les gens ont perdu à peu près 80% de leur patrimoine, sauf ils ont de l'immobilier, et 80% de leurs revenus. Enfin, en niveau de vie, c'est un effondrement total. Et ensuite, vous savez, notre pyramide, c'est la pyramide du travail qui qui s'effondre, puisque si les gens n'ont plus de moyens, ils n'achètent plus, donc les commerçants ne peuvent plus, donc les artisans ne peuvent plus, et ainsi de suite. C'est une pyramide de société qui s'effondre, un château de cartes.
Vous rappelez que l'organisation économique du Liban repose sur un système néolibéral qui dépend d'une part des pays du Golfe et d'autre part de l'argent envoyé par la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Alors, néolibéral, ils n'ont pas attendu. Ils ont été par définition libéraux depuis le départ, ne serait-ce que parce que c'est une société communautaire et que donc les communautés n'aiment pas transférer de l'argent d'une communauté à une autre sous une forme de transferts sociaux. Ce qui explique d'ailleurs que le prélèvement se fasse par le biais des partis politiques et le clientélisme. Et donc, ils ont été libéraux depuis la création du Liban, il y a justement un siècle. Alors, les principaux revenus du pays, c'est comme le Moyen-Orient en général, mais c'est très accentué au Liban, c'est l'argent de l'extérieur, qui pour le Liban, c'est l'argent des expatriés. Et il y a une grande diaspora libanaise qui envoie de l'argent à leur famille sur place. L'argent du tourisme, parce que bon, c'était un des endroits les plus agréables du Moyen-Orient pour passer l'été. Donc il y avait le tourisme des expatriés, c'est-à-dire qui revenaient pour les vacances. Et puis le tourisme des gens du Golfe, qui dépensaient beaucoup. Et puis tout l'argent international dans les aides diverses, les prêts, les emprunts, etc. Et pratiquement toutes ces ressources sont en train de se tarir.
Et c'est donc aussi cela qui explique la crise économique dont on parlait.
Absolument. Bon, là, ces dernières années, les gens du Golfe sont peu venus. La crise syrienne a aussi pesait beaucoup avec l'arrivée des réfugiés, la rupture des communications terrestres. Avant, les gens d'Arabie Saoudite allaient passer leurs vacances au Liban, ils partaient en voiture et traversaient la Syrie. Maintenant, c'est évidemment plus possible. Les ressources sont effondrées et le système avait continué à fonctionner à vide. Jusqu'au moment, brusquement, on s'est aperçu que le roi est nu et que le château de cartes s'effondre.
Nous parlions hier, Henri Laurence, des destructions, enfin de Beyrouth pour préparer cette émission. Vous me disiez, Beyrouth, c'est un état d'esprit, ça n'est pas un patrimoine. Alors on parlera tout de même de la reconstruction, mais j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu cet état d'esprit. Qu'est-ce que c'est et est-ce que ça se reconstruit est-ce que ça se retrouve un état d'esprit, sachant qu'aujourd'hui c'est surtout la colère dans l'état d'esprit à Beyrouth.
Alors, pas de patrimoine, parce que si vous regardez les grandes villes de la région, elles ont toutes un magnifique patrimoine historique, y compris au Liban, Tripoli, Saïda, ou en Syrie, Damas, Alep, etc. C'est pas le cas à Beyrouth. Beyrouth était une petite ville au début du 19e siècle qui a eu une croissance accélérée, et à chaque fois, elle a été détruite. Je veux dire, elle a été largement détruite par les opérations d'urbanisme durant la Première Guerre mondiale. Elle a été détruite en partie durant la guerre civile. Donc, ce qui va se produire au Liban, c'est au moins sa troisième reconstruction pour Beyrouth. Alors, ce qui faisait le génie de Beyrouth, c'était l'état d'esprit, une certaine liberté de pensée, une certaine liberté de mœurs, des restaurants ouverts tard le soir, des boîtes de nuit, une activité culturelle intense, des universités en pagaille, etc. C'est ça qui faisait tourner Beyrouth, enfin, qui fait vivre Beyrouth, c'est ce magnifique état d'esprit par rapport à une société dans le reste de la région qui est beaucoup plus conservatrice.
Alors le reste de la région, justement, Henri Laurence, mardi soir, au moment des explosions, beaucoup ont pensé à un attentat, une attaque venue de l'extérieur. Certains y croient toujours, d'ailleurs. Et évidemment, ça n'est pas anodin. Le Liban, c'est aussi, on le sait, ce petit pays dans une région particulièrement instable et un pays qui se retrouve aujourd'hui considérablement affaibli. Quels sont les risques potentiels aujourd'hui, de ce point de vue, d'avoir un Liban aussi faible ?
L'État libanais était faible par nature. Il y avait un président qui avait dit « la force du Liban réside dans sa faiblesse ». Donc, de ce point de vue, ça ne change pas grand-chose. Le maître du jeu, ce n'est pas l'État libanais dans le conflit international, c'est le Hezbollah et le positionnement des uns et des autres par rapport au Hezbollah.
Mais justement, de ce point de vue-là, est-ce qu'il peut y avoir des évolutions, des mouvements, sachant malgré tout que même si l'État libanais était déjà faible, là, c'est tout de même un pays que l'on décrit à genoux, effondré.
Alors, la question, est-ce que la base sociale du Hezbollah serait capable de quelque sorte saper le parti? Moi, je n'y crois pas. Je pense que le Hezbollah a construit une contre-société qui est très homogène et en même temps, comme toute force politique dans ce genre de société, le Hezbollah négocie avec sa base sociale et avec sa communauté. On le voit très bien, par exemple, dans la plaine de la Beka, le Hezbollah négocie avec les chefs de clan et avec les contrebandiers. Tu me laisses faire ce que je veux, je te laisse faire ce que tu veux. En gros, c'est un peu le marché qu'il y a dans ces régions. Mais le Hezbollah est une des forces militaires les plus importantes de la région. Elle ne se laissera pas éliminer comme cela. Et on ne peut pas penser avoir le Talibanais se suicider en envoyant son armée contre le Hezbollah, d'autant plus qu'une bonne partie de l'armée est chiite dans ces éléments, y compris dans ces cadres supérieurs, et personne ne veut une guerre civile au Liban.
Sur la reconstruction, justement, on a vu, voilà, dès mardi, de très nombreux pays proposer, promettre de l'aide. Qu'est-ce qui se joue avec cette aide Henri Laurence? Enfin, est-ce qu'il y a autre chose qui se joue que l'aide à proprement dite? Est-ce qu'il faut voir aussi dans les prises de position des uns et des autres des intérêts, des rivalités croisées?
Je ne crois pas. On a un peu un mécanisme comme on a eu par exemple avec le tsunami il y a quelques années dans l'océan Pacifique. Vous avez d'abord un sentiment de solidarité internationale et puis il y a cette spécificité libanaise, c'est que le Liban apparaît comme une société moderne et quand vous voyez l'ampleur des destructions, pour les sociétés modernes comme les nôtres, on a le sentiment d'être proche ou que ça pourrait nous arriver. Ce qui est moins le cas quand on est dans une situation, entre guillemets, exotique.
Emmanuel Macron, justement, est à Beyrouth aujourd'hui. Il va arriver ce matin. Quel rôle la France doit-elle jouer? On entend, on lit que, en tout cas pour certains d'entre eux, les Libanais en attendent énormément.
Il y a un rapport très spécifique entre les Français et les Libanais. Quand M. Le Drian est venu l'autre semaine, les Libanais ont ressorti le couplet « Notre mère, la France, ne peut pas nous abandonner ». 50 à 60% de la population libanaise est plus ou moins francophone. On a 60 000 élèves dans le réseau agréé, c'est-à-dire qui préparent les diplômes français du baccalauréat. On a une diaspora libanaise importante chez nous. Pour les Français, disons que le Libanais ne peut pas être totalement un étranger. Inversement, un Français au Liban n'est pas totalement un étranger. Et ça, c'est un sentiment affectif qui est fort.
Mais politiquement, quel peut être le rôle politiquement de la France dans le moment là, qui est actuel?
C'est difficile. Je sais qu'on distribue des millions d'euros par-ci, par-là actuellement, mais les déficits libanais sont absolument colossaux. On estime la dette libanaise pourrait monter jusqu'à 100 milliards de dollars, disons 80 à 90 milliards d'euros. Donc ça ne peut pas s'effacer comme cela. Bon, là, il y a une aide d'urgence qui est importante, qui est nécessaire. Pour le reste, la classe politique libanaise a montré son manque de fiabilité par rapport aux demandes de réforme. Et ça fait déjà plusieurs années que on exige des réformes contre l'arrivée de nouvel argent au Liban. Mais elle n'a pas bougé, cette classe politique.
Merci, merci beaucoup Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Je renvoie vers vos livres nombreux, parmi eux Oriental, publié par les éditions du CNRS, qui réunit une quarantaine d'années de recherche, et puis La question de Palestine chez Fayard, 5 volumes. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Beyrouth, année zéro, au surlendemain de la double explosion qui a ravagé la capitale libanaise suite des matins d'été. Nous sommes à présent en ligne avec Karim Émile Bitar. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, vous dirigez l'Institut de sciences politiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Beyrouth, où vous vous trouvez, Karim Émile Bitar? Vous disiez au printemps que les Libanais étaient plongés dans une sorte de dépression collective. Aujourd'hui, à Beyrouth, c'est quoi l'état d'esprit qui domine?
C'est surtout la colère. On est passé de la dépression à une colère qui a été décuplée depuis octobre dernier, depuis le début de cette révolution libanaise. Aujourd'hui, le sentiment d'humiliation est à son comble. Les Libanais sont plus que jamais déterminés à transformer l'essai politiquement, à mettre à bas cette caste politique qui les a humiliés, qui a transformé ce pays en une sorte de ferme, en une sorte de pays failli, d'état failli, où le degré d'incurie, d'incompétence, de corruption a atteint véritablement des sommets. Personne n'aurait imaginé que nous n'arrivions là, que 2700 tonnes de matériel toxique soient stockées à quelques centaines de mètres de zones à haute densité résidentielle. Donc il s'agit aujourd'hui de construire une vaste coalition, un front d'opposition qui réussirait enfin à abattre cette oligarchie politico-financière qui domine le pays depuis une trentaine d'années.
Est-ce que pour vous c'est possible de construire ce mouvement, cette coalition, dans le contexte qui est celui-ci du champ de ruines, et quand on sait déjà la situation économique dans laquelle se trouvait le Liban, les Libanais avant cette catastrophe?
Ce sera certainement très difficile, ce sera un parcours semé d'embûches, mais il ne faut pas sous-estimer la détermination des Libanais. Elle était déjà très forte, et après cet incident, ils sont véritablement déterminés à aller au bout, car ils ont véritablement subi quelque chose qu'aucun autre peuple n'a subi. Aucune classe politique au monde n'a été aussi loin dans la gabegie, dans le mépris de son propre peuple, et les Libanais ont quand même un sens de la dignité, de l'honneur, qui a été bafoué. Et donc aujourd'hui, ils sont tous unis, même ceux qui soutenaient les partis politiques au pouvoir, il y a eu une sorte de sursaut collectif. Et il y a aujourd'hui une demande de redevabilité. Les dirigeants devront rendre des comptes. Reste à savoir comment la communauté internationale, entre guillemets, va se comporter. Est-ce qu'elle va encore une fois lancer une bouée de sauvetage en offrant une aide financière qui ne soit pas conditionnée à des réformes? Et on espère que la visite du président Macron aujourd'hui s'accompagnera d'exigences de réforme.
Oui, alors justement, parce que c'est déjà ce que Jean-Yves Le Drian avait dit quand il y allait en juillet, puis d'ailleurs il l'avait dit même avant cela en France, c'était le fameux « aidez-nous à vous aider », et quand il était revenu de Beyrouth, il y a donc pas longtemps, Jean-Yves Le Drian, il avait déploré le fait qu'il n'y ait toujours pas de réforme alors que le gouvernement justement s'y était engagé. Donc on peut penser tout de même que Emmanuel Macron aujourd'hui va être un peu dans le même état d'esprit, non?
Oui, il faut l'espérer, il faut rompre avec la vieille logique, celle des relations entre le président Chirac et le président Hariri, qui était une relation personnelle, où on offrait à la classe politique libanaise, toutes les quelques années, des bouées de sauvetage, une aide financière, qui servait essentiellement, non pas à la population libanaise tout entière, mais à une caste politique. Mmh. Il faut aujourd'hui absolument insister sur la conditionnalité de l'aide. Le Liban a absolument besoin d'aide, mais il ne faut pas que cette aide soit siphonnée au profit des personnes au pouvoir. Il est absolument nécessaire d'insister sur des réformes sectorielles, des réformes systémiques, et de pousser à l'émergence d'une nouvelle classe politique, d'une refonte tout entière du système libanais fondé sur le clientélisme, le confessionnalisme, le féodalisme, pour parvenir à fonder enfin un État qui soit suffisamment fort, qui soit au-dessus des intérêts privés et catégoriels, et pour l'émergence d'une citoyenneté libanaise. Les Libanais exigent aujourd'hui qu'ils dépendent directement d'un État et non plus de communautés religieuses.
Je voudrais, Karim Émile Bitar, peut-être que l'on s'arrête quand même sur le port de Beyrouth où ont eu lieu ces explosions. Peut-être d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'il représente à la fois économiquement, symboliquement et aussi précisément dans la façon dont il est géré et dont cette gestion peut être représentative justement de tout ce que vous dénoncez.
Alors, le port de Beyrouth, du point de vue symbolique, est très important. C'est l'ouverture sur le monde. Le Liban se vante, même si c'est en grande partie un mythe, d'être l'héritier des Phéniciens, qui ont créé des ports un peu partout en Méditerranée. Économiquement, c'est le principal port de la région, nettement au-dessus des capacités des autres ports libanais, même celui de la ville de Tripoli, qui est quand même une très grande ville au nord Liban. Politiquement et administrativement, ce port est devenu un empire de la corruption, une véritable caverne d'Ali Baba, dominée par des partis politiques, avec énormément de passe-droits, énormément de pattes à graisser dès lors qu'il fallait faire la moindre formalité. Et c'est un peu comme ça qu'on en est arrivé là, l'absence de régulation, l'absence de transparence, une véritable mafia qui gérait ce port, et des ministres des transports, des ministres des douanes qui se sont succédés, qui n'ont pas fait le moindre effort pour rendre à leurs propriétaires ou exporter à nouveau ces matières toxiques. Et aujourd'hui, les citoyens exigent la mise sous résidence surveillée des responsables et des procès qui n'aboutissent pas à la simple congédiation, uniquement à congédier quelques lampistes ou quelques fonctionnaires de deuxième ou troisième catégorie. Ils exigent que le système tout entier soit sanctionné.
Et justement, ces matières qui ont explosé et qui étaient entreposées sans précaution depuis 6 ans, nous dit-on, dans ce port, visiblement les autorités étaient au courant, mais tout le monde un petit peu se renvoie la balle. Et finalement, est-ce que c'est ça, ce côté quelque part catastrophe annoncée qui fait que les Libanais se sentent humiliés? Vous avez utilisé ce mot tout à l'heure, en colère, mais vous avez dit aussi humiliés.
Oui, absolument. Et là où vous visez juste, c'est quand vous dites que tout le monde se renvoie la balle. C'est précisément le gros problème du système libanais, c'est que c'est une sorte d'oligarchie, de système consociatif, comme on l'appelle, où personne n'est vraiment responsable, où tout le monde est dans le même bateau en quelque sorte, où des adversaires politiques gouvernent ensemble dans des gouvernements qui sont supposés être des gouvernements d'union nationale, où on se partage les postes et les prébendes, où ils sont d'accord pour gouverner ensemble, mais personne n'est d'accord pour assumer les responsabilités. Dès lors qu'il y a un drame, chacun cherche à se refiler la patate chaude et on se retrouve dans une situation où tout le monde est responsable mais personne n'est coupable. Et c'est véritablement cela auquel les Libanais aspirent à enfin tourner cette page. Ils veulent des gouvernements qui assument leurs responsabilités, des gouvernements qui soient dignes de représenter un peuple qui aspire au changement. Ils aspirent aujourd'hui à un gouvernement de transition qui soit doté de pouvoirs législatifs et qui puisse aller aux prochaines élections en ayant, pendant un certain temps, fait le ménage.
On nous parle depuis hier et même à vrai dire dès mardi de la solidarité qui se met en place aussi de la population, parce que évidemment, et ça il faut en parler aussi, Karim Émile Bitar, la réalité du présent, ce sont, nous dit-on, des centaines de milliers de personnes privées de domicile et des difficultés aussi pour certains à se nourrir tout simplement.
Absolument, il faut rendre hommage à la population libanaise qui a énormément de ressources, énormément d'ingéniosité, d'entraide, on voit beaucoup de belles histoires, mais il faut quand même sortir de la logique de philanthropie, de charité, il faut édifier un État et bâtir une justice sociale, c'est quand même le rôle des institutions officielles, on ne peut pas en permanence compter sur la société elle-même, sur les bons samaritains, sur l'entraide des Libanais, il faut que l'État joue son rôle, et c'est ce qui n'a pas été le cas depuis l'indépendance du Liban. On a toujours compté sur les réseaux de solidarité informels. Et aujourd'hui, les plus démunis n'ont pas sur qui compter. Ils doivent en permanence frapper à la porte des associations de charité. Il y en a qui font un rôle, qui jouent un rôle absolument remarquable. Mais au final, on ne peut plus s'appuyer uniquement sur ces associations. Il est temps d'édifier dans ce pays un État qui soit au-dessus de toutes ces tous ces intérêts privés et catégoriels.
Alors, la classe politique totalement discréditée, il est temps de construire autre chose, nous dites-vous, et en même temps, vous l'avez écrit, ça aussi, pour le coup, elle est résiliente, cette classe politique, cette classe dirigeante, même avec des intérêts parfois divergents, elle résiste. Qu'est-ce qui peut faire que cette fois, ce soit différent ?
En effet, le terme résilient a été galvaudé au sujet du peuple libanais. Ceux qui sont véritablement résilients, ce sont les oligarques, la classe politique. Ils s'accrochent, mais aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Ils ne sont plus en mesure, ces mafieux au pouvoir, de soutenir leur propre électorat, d'acheter la paix sociale, d'acheter l'allégeance de leurs propres partisans. C'est peut-être pour cela qu'ils sont affaiblis. Et ils vont peut-être comprendre, et on espère que le président Macron pourra peut-être jouer un rôle là-dessus, de leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt bien compris de se mettre à l'écart pour au moins 2 ou 3 ans, pour laisser la place à des gouvernements de transition, laisser la place à d'autres, pour pouvoir éventuellement avoir une petite chance de revenir. Autrement, c'est peut-être une révolution beaucoup plus violente que celle à laquelle ils ont assisté l'an dernier qui pourrait les attendre. Certains Libanais aujourd'hui réclament une phase de révolution qui serait beaucoup moins bon enfant que celle de l'année dernière. On avait eu des aspects un peu festifs l'année dernière qui rappelaient peut-être mai 68. Là, on pourrait avoir une phase de révolution qui serait beaucoup moins sympathique. Les Libanais exigent des comptes et certains voudraient ériger les potences.
Et justement, il y a des chercheurs, certains de vos collègues, qui disent qu'aujourd'hui, la situation du Liban est comparable, par exemple, à celle de la Somalie, qui parle de risque de somalisation du Yémen, du Soudan. Est-ce que vous vous placez là-dedans? Est-ce qu'on en est à ce niveau-là de risque de...
Le Liban a toujours été un cas véritablement particulier, un cas sui generis. On a eu beaucoup de comparaisons avec la Somalie, l'Irak, le Venezuela, etc. Le Liban est vraiment un cas particulier. Il faut se méfier des comparaisons. Mais en tout cas, il est vrai qu'il y a un risque que le Liban devienne un État failli. L'État est en faillite. Les principales banques du pays sont en faillite, même si elles ne l'ont pas encore déclaré. La situation est vraiment grave. Les négociations avec le Fonds monétaire international patinent. Il est certain qu'on a besoin d'un reboot du système tout entier, d'une refonte du système politique, de nouvelles institutions et d'une nouvelle classe politique. Autrement, il y a un véritable risque pour la survie même du Liban.
Et cette défiance, pour finir, cette défiance dont vous parlez, elle s'exprime aussi là à travers l'enquête, la commission d'enquête qui est mise en place pour travailler sur les causes précises de l'accident, de la catastrophe de mardi. On entend là aussi dans les reportages, on le lit, que absolument personne n'a confiance en cette commission, personne n'a confiance en la capacité à rendre justice. Et certains d'ailleurs demandent une commission d'enquête internationale plutôt.
Oui, la classe politique est entièrement décrédibilisée, entièrement démonétisée. Les citoyens n'écoutent même plus les discours officiels. Il y a un certain cynisme, un certain nihilisme même, je dirais, qui s'est généralisé dans la société libanaise. Et ce sera peut-être là le principal obstacle, de convaincre les citoyens qu'il faut passer par l'action politique, ne pas s'en détacher complètement pour reconstruire un Liban nouveau.
Eh bien, merci beaucoup Karim Émile Bitar. Merci d'avoir été avec nous ce matin depuis Beyrouth, professeur de relations internationales, directeur de recherche à l'IRIS et directeur de l'Institut de sciences politiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci beaucoup.